Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église ne célèbre aujourd'hui aucune solennité. C'est un simple dimanche après la Pentecôte. La liturgie, par conséquent, est réduite en ce jour à sa plus sainte expression. Cependant, l'Église offre aujourd'hui à nos méditations une matière des plus importantes. Chacun des dimanches après la Pentecôte renferme un enseignement pratique dont nous pouvons tous profiter. Pour ce cinquième dimanche, l'Église, en bonne mère, nous propose tout un enseignement sur la conduite à tenir envers nos ennemis. Elle va emprunter successivement à David, à Saint-Pierre, à l'Ecclésiastique et enfin à notre Seigneur Jésus-Christ des maximes de sagesse surnaturelle. Commençons par l'introïte. L'introïte de cette messe, tout d'abord, nous fait entendre la voix du prophète royal David. Il est bien l'homme du monde qui a le plus éprouvé peut-être les injustices de la haine et les rigueurs de la jalousie. David manifeste dans ce psaume 26, dont est tiré notre introïte, sa confiance en Dieu face aux ennemis de son salut. L'introïte ne retient de ce psaume que cette prière de confiance dans ce Dieu sauveur. « Écoutez, Seigneur, la voix que j'élève vers vous. Soyez mon secours, ne me méprisez pas, ô Dieu de mon salut. » Cependant, si nous voulons comprendre pleinement l'état d'âme de David face aux multiples persécutions qu'il eut à souffrir, il nous faut mettre ce psaume 26 en parallèle, en vis-à-vis, avec un autre psaume, le psaume 36, dans lequel le croix prophète nous donne la route à suivre face aux persécutions des méchants. David, en effet, a été en but pendant sa vie à de nombreuses persécutions. Du roi Saül, d'abord, qui enviait ses succès et qui chercha à le tuer, à le mettre à mort à plusieurs reprises, notamment une fois en lui jetant sa lance dessus. David s'écarta, la lance se ficha dans le mur. Puis, autre persécution, celle de son propre fils Absalom, qui voulut le détrôner, prendre sa place et qui, pour cela, fomenta une véritable révolution dans tout le royaume, avec tout ce que cela implique de faux frères, de parjures, de traîtres et de trahisons, ça va ensemble, et de haine profonde. Rien de tel qu'une guerre civile pour fomenter les pires des haines. David nous donne dans le psaume 36 d'excellents conseils. Lorsque la colère nous submerge face aux manœuvres de gens qui nous veulent du mal. Les voici. Dessinez Abira et dirilinque furorem. Calmez ce mouvement de colère. Renoncez à ce projet de vengeance. Noli emulari ut malinieris. N'allez pas entrer en concurrence de malignité avec celui dont vous vous plaignez. N'allez pas dire « Il m'a offensé, je lui rendrai ». Je connais ses faiblesses, je vais me venger. Non. Noli emulari ut malinieris. Cette triste émulation n'est pas digne d'une âme rachetée dans le sang d'un Dieu qui a pardonné sur la croix à ses bourreaux. Cette vengeance ne nous serait pas salutaire. Le psaume continue. Coniam qui malignantur extermina bontur. Ceux qui commettent le mal seront exterminés. Et peu importe qu'ils commettent le mal par pure méchanceté ou pour se venger d'une méchanceté déjà reçue auparavant, ceux qui commettent le mal, quelle qu'en soit la cause, seront exterminés, détruits, rayés. Plus rien. Le psaume est très clair. Ceux qui machinent le mal, ceux qui ourdissent de perfides projets, aussi habiles soient-ils, à garder bonne contenance, à paraître juste et bon aux yeux du monde, si lâchement qu'ils s'abritent sous les ténèbres, ceux-là en définitive sont toujours confondus, exterminabuntu. La rigueur de Dieu et le juste mépris des hommes tomberont toujours sur eux. Mais c'est pareil pour ceux qui se vengent. Même s'il y a une cause à la rigueur juste de vengeance. Et c'est David, encore une fois, qui nous donne ses conseils. Conseils qui prennent toute leur valeur du fait qu'il les a appliqués lui-même. Il nous dit ce qu'il a fait face à ses ennemis. Si nous voulons savoir ce qu'a fait David, prenons la Sainte Écriture, ouvrons la Sainte Écriture. Qu'est-il écrit ? Qu'il épargna Saül, alors qu'il était à sa merci dans la grotte d'Adollam. Vous connaissez l'histoire. Saül se réfugie dans cette grotte. Il se cache dans la pénombre au fond de la grotte. Et le roi Saül se sépare de son groupe et rentre dans cette même grotte et s'assoupit et s'endort dans la grotte. Et David, dans la pénombre, voit son ennemi endormi devant lui. Il eût été si facile de supprimer tous les problèmes en le mettant à mort. Et David ne l'a pas fait. Il a pratiqué cette charité pour ses ennemis. Quand il apprit la mort du roi Saül face aux Philistins, il pleura sa mort amèrement. Et il fit tuer son meurtrier. Face à la révolte d'Absalom, il quitta Jérusalem silencieux, en priant, alors que ses anciens amis et soutiens l'injuriaient et le maudissaient. Le roi David a quitté Jérusalem sous la huée populaire, sous les pierres. Plus tard, quand il eut pu reconstituer une armée pour faire face à son fils, il demanda à ses soldats d'épargner son fils Absalom. Ce fils indigne, qui ne lui avait apporté que malheur. Mais malheureusement, le général de David, le général Joab, âme vindicative, âme méchante, que David fera mettre à mort plus tard. Enfin, il demandera à son fils Salomon de le mettre à mort. Lui avait planifié la mort d'Absalom et soudoya 3 soldats pour le tuer pendant le combat. À l'annonce de sa mort, David en fut inconsolable, tout ébranlé. Alors que c'était son ennemi. Oui, ce conseil, coniam qui maligniam tur extenamontur, a toute sa force si l'on considère tout cela. Mais ce psaume ajoute aussi, après ces conseils, la récompense du juste. Sustinentes altem dominum ipsi hereditabunt terram. Ils auront la terre en héritage, elle sera leur partage. En effet, les armes de l'iniquité se retournent toujours contre ceux qui les manient. Tandis qu'au contraire, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, ceux qui laissent à Dieu le soin de leur justification, ceux qui, au lieu de suivre les méchants sur leur terrain, tiennent leurs yeux dirigés vers les cieux, ceux-là finiront par recueillir l'héritage de la terre. Oui, de la terre. C'est le psaume qui le dit. Terram hereditabunt. Le ciel, bien sûr, est la récompense des justes, promise et assurée à ceux qui font le bien ici-bas. Mais le psaume dit bien « hereditabunt terram », la terre sera leur partage. Car un commencement de justice leur sera rendu dès cette vie, dès ici-bas. Quel est-il ? Déjà la paix du cœur, la paix d'une conscience droite. Quand on fait la volonté de Dieu, quand on pratique cette douceur, cette miséricorde envers ses ennemis, Dieu donne une grande paix malgré les douleurs de la persécution. Et cette paix de l'âme, cette paix d'une conscience droite, est ici-bas la plus grande participation à la joie du ciel. La béatitude, d'ailleurs, ne dit pas autre chose. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est le même message. Après l'introïte, le texte propre qui suit est la collecte. Dieu, vous avez préparé des biens invisibles à ceux qui vous aiment. Répandez dans nos cœurs le sentiment de votre amour, afin que vous aimant en toutes choses et par-dessus toutes choses, nous obtenions un jour ces biens que vous nous avez promis et qui surpassent tous nos désirs. Le thème de cette oraison est tout centré sur l'amour que nous devons avoir pour notre Dieu. Cette oraison nous rappelle la récompense que Dieu donnera à ceux qui l'auront aimé, les biens invisibles, le bonheur du ciel qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Les joies d'ici-bas ne sont qu'un très, très, très pâle reflet, très éloigné de cette joie du ciel, qui est Dieu lui-même. Deuxième chose, cette raison nous rappelle que personne ne peut se donner le pouvoir de grandir dans l'amour. C'est Dieu qui nous donne de grandir dans la charité. C'est une grâce qu'il faut demander à Dieu, de grandir dans son amour. Et le ciel est la récompense de cet amour pour Dieu. Troisième chose que nous dit cette oraison, c'est que pour obtenir cette récompense, il nous faut aimer Dieu en toutes choses, par-dessus toutes choses, y compris dans nos ennemis. In omnibus. Et c'est une grâce qu'il faut demander à Dieu. Mais voici qu'un autre texte, une autre voix se fait entendre. Dans l'introït, c'est la voix de David. Dans la collecte, c'est la voix de l'Église. À l'Épître, c'est la voix de Saint-Pierre, le premier pape, le premier pasteur. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Transportons-nous en imagination à l'époque où a été écrite cette Épître. Les fidèles qui se réunissent dans les catacombes viennent de recevoir une lettre secrète de leur premier pasteur, le chef de l'Église. Elle commence ainsi, « Mes très chers, carissimi, délicatesse de Saint-Pierre, mes très chers, n'ayez qu'un même esprit, omnes unanimes, et n'ayez aussi qu'un seul cœur. Quand les pensées sont communes, les affections doivent être réciproques. Omnes unanimes, compatientes, vous supportant les uns les autres, patientant pour chacun d'entre vous. Contre vous règne une douce fraternité, toujours Saint-Pierre qui parle, fraternitatis amatores, amoureux de la fraternité. Et ce langage était compris des fidèles, comme nous le rapportent les actes des apôtres. Erant coronum et anima una, et erant illis omnia communia. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et tout entre eux était en commun. C'est ainsi que le message de notre Seigneur a été reçu par ces premiers chrétiens de Judée. Un cœur, une âme. Pas de dissension entre eux. La fraternité, une vraie fraternité, fondée sur la charité. Mais continue Saint-Pierre, l'esprit de fraternité nous oblige à l'indulgence. L'indulgence, c'est le grand moyen pour parvenir à cette fraternité. Nous sommes si fragiles et nous commettons tant de manquements. La fraternité ne demeurera entre nous qu'autant que nous serons nous pardonner bien des choses. Soyons donc indulgents et enclins à pardonner. Misericordes, nous dit Saint-Pierre. Miséricordieux. C'est toujours l'Épître qui parle. Et voyez, on se pardonne si facilement à soi-même ses manquements. Et on est si dur avec les autres. Il faudrait faire l'inverse. Ne soyons pas aussi entêtés dans nos droits. Le diable est très habile pour mettre devant nos yeux nos droits qui auraient été lésés. Ces droits que nous devons venger à tout prix. En cela, il y a beaucoup de nous-mêmes, de vanité, d'orgueil, d'amour de soi. Et c'est la ruine de la fraternité, voyez-vous. Les saints ont su laisser leurs droits de côté. Pas tous les droits, bien entendu, il y a des distinctions à faire. Vous voyez, c'est l'Évangile. Si on frappe sur la joue gauche, tend la joue droite. Si on te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000. C'est l'esprit de l'Évangile, c'est notre Seigneur. Saint-Pierre continue, et c'est comme un écho au psaume 36, dont on a parlé au début. « Ne rendez point le mal pour le mal. » ni la malédiction pour la malédiction, mais au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent. Et Saint-Pierre donne la raison, « Quia in hoc vocati estis ». Vous avez été appelé à cela. La vocation d'un chrétien, c'est de rendre le bien pour le mal, de bénir ceux qui nous maudissent, d'aimer nos ennemis. C'est la vocation d'un chrétien. C'est le langage de Saint-Pierre. L'oubli des injures, c'est la vocation d'un chrétien. Et ce n'est pas seulement le pardon ou l'oubli des injures, c'est aussi l'amour des ennemis que nous sommes appelés à pratiquer. C'est de contrario benedicentes, au contraire bénissant, voulant le bien, benedicere, dire le bien, faire le bien. Monseigneur de Lassus, vous connaissez, a écrit des livres qui sont fameux, la conjuration antichrétienne et la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc, principalement. Deux livres qu'il faut avoir lus. Il s'est fait beaucoup d'ennemis dans son combat antilibéral. Beaucoup de prêtres libéraux l'ont attaqué, l'ont calomnié. Il avait l'habitude, à la fin de chacune de ses messes, pendant l'action de grâce, c'était d'ailleurs la dernière prière de son action de grâce, de dire ceci: « Seigneur Jésus, réservez vos meilleures bénédictions pour mes ennemis. » C'est l'esprit de cet épître. Pratiquez, voyez-vous, tout simple. Et ça donne du relief et un attachement à ce prêtre qui a combattu le bon combat. Il a eu l'amour de ses ennemis. Il a prié pour eux. Et c'est à ce titre seul que nous hériterons des bénédictions célestes. Ut benedictionem hereditate possideatis. Mais Saint-Pierre ne conclut pas tout de suite. Il rentre dans un détail très pratique qui a une grande importance. Gardez nos langues du mal. Car ce qui se passe dans le cœur passe très facilement dans la bouche et sur la langue. Et quand on a du mal à supporter quelqu'un, très souvent on en parle mal. C'est un péché très commun. Même parmi nous. Si quelqu'un veut se faire une vie agréable et couler des jours heureux, Saint-Pierre nous dit cela, qu'il garde sa langue du mal et que ses lèvres ne profèrent point les paroles de tromperie. Vous me direz, le monde est bien méchant. C'est vrai, il est plein d'intrigues, de cabales, de calomnies, de passions. C'est vrai. Mais l'intrigue et la passion ne s'agiteraient-elles pas aussi dans nos cœurs? Le monde est bien méchant, oui, mais ne serions-nous pas, nous aussi, bien colère et bien méchants, parfois aussi? Le monde est bien méchant, c'est vrai, mais une conduite douce, condescendante, indulgente, finit par dompter la malignité du monde. Que d'exemples de saints qui ont vécu des persécuteurs par la douceur et la modestie. Et puis d'ailleurs, toujours Saint-Pierre, si nous souffrons quelque chose pour la justice, alors nous serons heureux. Et si quid patimini propter justitiam, beati, bienheureux, beati. Et alors, et c'est la fin de l'épître, ne nous laissons aller à aucune crainte, à aucun trouble, pas d'agitation. Persécutés par l'injustice des hommes, rentrons avec plus de recueillement en nous-mêmes, dans le sanctuaire de notre cœur, pour y tenir compagnie à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Pierre ne connaît pas d'autre moyen pour un chrétien de se venger de ses ennemis. C'est de rentrer en lui-même, de profiter de l'injustice pour rentrer en lui-même et passer du temps avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'autant plus que les hommes sont contre lui. David, dans l'intro 8, notre mère l'Église dans ses belles oraisons, Saint-Pierre, le prince des apôtres, dans l'Épître, il nous faut maintenant prêter l'oreille à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Lisons attentivement cet Évangile de ce cinquième dimanche. Nous y retrouverons, là aussi, une doctrine sublime touchant l'amour des ennemis. Trois remarques, surtout, sont à faire au sujet de cet Évangile. La première, c'est que l'amour des ennemis est présenté par notre Seigneur Jésus-Christ comme la vertu propre du chrétien, comme Saint-Pierre, la vocation. Aimer ceux qui nous aiment, les publicains en font autant. Saluer seulement nos frères, les païens font cela. Mais moi, Jésus, je vous dis cela, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous humilient, priez pour ceux qui vous persécutent, par leur mauvais vouloir et leur calomnie. Nous lisions à table récemment la vie de Saint Jean de Dieu. Il a construit des hôpitaux au Portugal et en Espagne. Un jour, une femme vient le voir et lui dit que c'est un imposteur, un hypocrite. Tout est faux. Qu'a fait le saint? il lui a donné de l'argent en lui disant « Prêchez cela par toute la ville si vous voulez. » Tout n'est pas imité dans les saints, mais vous voyez l'esprit. Un esprit d'humilité. De ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Et de rentrer en nous-mêmes et de comprendre ce mauvais fond qui est en nous, ce fond de colère, ce fond de vengeance qui est en nous. Deuxième remarque sur cet évangile. Notre Seigneur est d'une très grande sévérité contre ceux qui parlent mal de leurs frères. Ce qu'ils obtiendront n'est rien d'autre que la gêne éternelle, disait l'évangile. Celui qui dit raca, c'est-à-dire fou, fatoué, imbécile, aura la gêne en partage. C'est l'évangile. C'est dur peut-être, mais c'est la vérité. Troisième remarque, et elle est essentielle. Dieu ne veut point recevoir à l'autel le présent de celui qui ne s'est pas réconcilié avec son frère. L'évangile ne dit pas. Si vous vous souvenez que vous avez quelques ressentiments contre votre frère, mais si vous vous souvenez que c'est votre frère qui a un ressentiment contre vous, c'est très différent. On peut être en paix avec son prochain, mais on peut savoir que le prochain a quelque chose contre nous, à tort ou à raison. L'évangile nous demande de tenter de nous réconcilier. Peut-être que cela sera infructueux, dans ce cas, nous aurons fait notre devoir. Et nous devons tenter intelligemment, prudemment. Il y a différentes manières de se réconcilier. Par la parole, par le service, différents moyens. Nous devons faire cela. C'est la parole de l'Évangile. C'est la demande expresse de notre Seigneur. Sinon, le Seigneur ajoute, ce n'est pas la peine de venir à l'autel présenter l'offrande, si on n'a pas tenté la réconciliation. Et nous avons donc, en contrepartie, le devoir de pardonner à ceux qui viennent nous demander pardon. Saint François de Sales a au moins 2 reprises dans ses œuvres, et on voit qu'il aimait cet exemple. Raconte ce fait d'un prêtre qui était très ami avec un laïc du temps de l'Empire romain. Et un jour, ces 2 très bons amis se sont gravement disputés et sont devenus des ennemis l'un envers l'autre. Ils étaient sur cette querelle, ils étaient restés là. Ni l'un ni l'autre n'avaient tenté de se réconcilier. Les deux étaient coupables, peut-être plus l'un que l'autre, mais peu importe à la rigueur. Un jour, le prêtre se fait saisir par les autorités romaines, mettre en prison et condamner à l'échafaud, à la décapitation. C'était comme ça que faisaient les Romains. Le laïc se souvient du devoir de se réconcilier. Il se rend à la prison. Il demande pardon. Le prêtre refuse de pardonner. Il se met à genoux. Il refuse de pardonner. Il verse des larmes. Le prêtre refuse de pardonner. L'ami est revenu souvent en prison, tenté d'obtenir la réconciliation, le pardon de son ancien ami. Toujours le même refus. Sur le chemin de la prison à l'échafaud, l'ami est là présent, qui demande au prêtre de lui pardonner. Il pratique le conseil de l'Évangile. Refus tout le long. Sur l'échafaud, encore, il lui crie de lui pardonner. Refus encore. On lui met la tête sur le billot et là, le prêtre craque. Il flanche. Il renie Jésus-Christ. Il est apostat. Son ami essaie de le soutenir, en vain. On libère le prêtre et on attrape cet homme qui crie, qui sort du lot, et c'est lui à qui on coupe la tête et il est monté au ciel directement. Et l'autre, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais on peut craindre pour le salut de son âme. Devoir de demander pardon, devoir de pardon. Et à combien plus forte raison nous devons, dans notre cœur, détruire tout ce qui se ressent, l'amertume, la haine du prochain. Les âmes vindicatives doivent méditer cet évangile, le relire souvent, pour en tirer les leçons nécessaires, pour sortir de cet esprit de vengeance qui n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus. Il est temps de conclure. Pour conclure, nous emprunterons à nouveau à cette liturgie, à cette belle liturgie du cinquième dimanche, un beau texte, le texte de la post-communion. Accordez-nous, nous vous en prions, à nous qui avons été rassasiés du don céleste, c'est-à-dire de la communion, de la Sainte Eucharistie, que nous soyons purifiés de nos fautes cachées, de ces haines que l'on cache dans son cœur, de ces ressentiments qui restent dans le cœur, et que nous soyons aussi délivrés des embûches de nos ennemis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.